La création monétaire va-t-elle nous sauver ? L'une des évolutions les plus spectaculaires observées depuis la crise financière de 2008 est le nouveau rôle joué par la création monétaire et les banques centrales. Cette transformation a profondément perturbé les perceptions des rôles respectifs de l'État et des banques centrales, de l'impôt et de la monnaie, et plus généralement les représentations de l'économie juste. Avant la crise de 2008, la représentation dominante de la monnaie était qu'il était impossible, ou tout du moins peu recommandé, de demander aux banques centrales de créer autant de monnaie aussi vite. C'est notamment sur cette base que les Européens avaient validé la création de l'euro dans les années 1990. Après la stagflation des années 1970, mélange de stagnation, ou tout du moins de ralentissement de la croissance et d'inflation, il n'avait pas été trop difficile de les convaincre dans le cadre du traité de Maastricht, adopté en 1992, que l'euro devait s'appuyer sur une banque centrale aussi indépendante que possible, avec pour mandat prioritaire une cible d'inflation positive mais faible, 2%, et une interférence minimale dans la vie économique. Le nouveau rôle soudainement pris par les banques centrales depuis 2008 a créé un sentiment de grande confusion en Europe et ailleurs qu'il est important de mieux comprendre. Afin de préciser les termes de la discussion, commençons par examiner l'évolution de la taille du bilan des principales banques centrales de 1900 à 2018, voire graphique 13.13. Le bilan d'une banque centrale désigne tous les prêts qu'elle a consentis à l'économie, en général au travers du système bancaire, et tous les titres financiers, principalement des obligations, achetés sur les marchés. La plupart de ces prêts et de ces achats de titres se font par une création monétaire purement électronique de la part des banques centrales, sans fabrication de billets et de pièces. Pour simplifier la discussion et la compréhension de ces mécanismes, il est d'ailleurs préférable de se placer d'emblée dans le cadre d'une économie monétaire entièrement digitalisée, c'est-à-dire où la monnaie existerait uniquement en tant que signe virtuel dans les ordinateurs des banques, et où toutes les dépenses des entreprises comme des particuliers seraient réglées électroniquement et par carte de crédit, ce qui n'est pas loin d'être déjà le cas et ne changerait rien aux opérations décrites ici. Au milieu des années 2000, à la veille de la crise financière de 2007-2008, le bilan de la Federal Reserve représentait l'équivalent d'un peu plus de 5% du PIB des États-Unis, alors que celui de la BCE avoisinait les 10% du PIB de la zone euro. Il s'agissait principalement de prêts à très court terme faits aux banques, souvent à l'horizon de quelques jours ou tout au plus de quelques semaines. Il s'agit là de la fonction traditionnelle d'une banque centrale par temps calme. Les opérations d'entrée et de sortie de fonds au sein des comptes de chaque banque privée, prises individuellement, dépendent des décisions de millions de personnes et d'entreprises, et elles ne peuvent jamais s'équilibrer au dollar ou à l'euro près au quotidien. Les banques se font donc des prêts entre elles, à très court terme, pour équilibrer le système de paiement, et la banque centrale assure la stabilité de l'ensemble et apporte la liquidité nécessaire. Ces prêts entre banques et entre la banque centrale et les banques privées s'équilibrent le plus souvent en quelques jours ou quelques semaines et ne laissent pas de traces durables. Il s'agit au fond d'une fonction financière purement technique, essentielle pour la stabilité de l'ensemble, mais qui intéresse généralement assez peu les observateurs extérieurs. À la suite de la panique financière de septembre 2008, consécutive notamment à la mise en faillite de Lehman Brothers, la situation changea du tout au tout. Les principales banques centrales de la planète se mirent à développer des opérations de création monétaire de plus en plus complexes, désignées par le nom énigmatique de « quantitative easing », assouplissement quantitatif. Concrètement, ces opérations reviennent à faire des prêts au secteur bancaire sur des durées de plus en plus longues, 3 mois, 6 mois, voire 12 mois, et non plus quelques jours ou semaines, et à acheter des titres émis par les entreprises privées et les gouvernements à des horizons encore plus lointains, plusieurs années, et dans des proportions beaucoup plus massives qu'auparavant. La réaction la plus rapide fut celle de la Federal Reserve. En septembre-octobre 2008, la taille de son bilan passa de l'équivalent de 5% du PIB à 15% du PIB, soit une création monétaire équivalent à 10% du PIB des États-Unis en quelques semaines. Cet activisme s'est poursuivi au cours des années suivantes et ce bilan a atteint 25% du PIB fin 2014, avant de décliner légèrement depuis lors, tout en restant substantiellement plus élevé qu'avant la crise. 20% du PIB fin 2018 contre 5% du PIB mi-septembre 2008. En Europe, la réaction a été plus lente. La BCE et les autorités européennes ont mis plus de temps à comprendre que seule une intervention puissante de la Banque centrale pouvait stabiliser les marchés financiers et réduire les écarts de taux sur les dettes publiques des différents pays. Mais les programmes d'achat d'obligations privées et publiques se sont par la suite accélérés, et le bilan de la BCE atteignait 40% du PIB de la zone euro à la fin de l'année 2018, soit une création monétaire de 3 200 milliards d'euros en moins de 10 ans. Il existe un assez large consensus pour considérer que cette intervention massive des banques centrales a permis d'éviter que la grande récession de 2008-2009, qui, avec une chute moyenne d'activité d'environ 5% aux États-Unis et en Europe, fut la plus importante de l'après-guerre dans les pays riches, ne se transforme en une grande dépression comparable à la crise des années 1930, avec des chutes d'activité de l'ordre de 20-30% dans les principales économies entre 1929 et 1932. En évitant les faillites bancaires en cascade et en assumant leur rôle de prêteur de dernier ressort, la Fed et la BCE n'ont pas répété les erreurs des banques centrales de l'entre-deux-guerres, dont les doctrines orthodoxes et liquidationnistes, autrement dit les mauvaises banques doivent faire faillite et l'économie repartira, avaient contribué à précipiter le monde vers l'abîme. Ce faisant, le risque est que ces politiques monétaires, en permettant d'éviter le pire, et contribue à donner l'impression qu'aucun changement structurel plus profond des politiques sociales, fiscales et économiques n'était nécessaire. Or, les banques centrales ne sont pas équipées pour résoudre tous les problèmes du monde et pour proposer une régulation d'ensemble du capitalisme, sans parler de son dépassement. Pour lutter contre l'excès de dérégulation financière, la montée des inégalités ou le réchauffement climatique, il faut d'autres institutions publiques, des lois, des impôts, des traités internationaux, le tout construit par des parlements s'appuyant sur la délibération collective et des procédures démocratiques. La force des banques centrales est leur capacité d'action extrêmement rapide. À l'automne 2008, aucune autre institution n'aurait pu mobiliser aussi vite des ressources aussi importantes. En cas de panique financière, ou bien d'une guerre ou d'une catastrophe naturelle d'une gravité exceptionnelle, seule la création monétaire peut fournir à la puissance publique les moyens d'une intervention immédiate. Par comparaison, les impôts, les budgets, les lois et les traités demandent parfois des mois de délibération parlementaire, sans compter que la recherche de majorité politique adéquate peut exiger de nouvelles élections sans garantie de résultat. En même temps, cette force des banques centrales est aussi leur principale faiblesse. Elle ne dispose pas de la légitimité démocratique suffisante pour s'aventurer trop au-delà de leur sphère d'expertise étroitement bancaire et financière. Dans l'absolu, rien n'empêcherait les banques centrales de décupler leur taille, voire davantage. Rappelons par exemple que le total des propriétés privées, immobilières, professionnelles et financières, nettes de dettes, détenues par les ménages, atteint dans les années 2010 environ 500-600% du revenu national dans la plupart des pays riches, contre à peine 300% dans les années 1970-1980. D'un point de vue strictement technique, il serait possible pour la Fed ou la BCE de créer l'équivalent de 600% du PIB ou du revenu national en dollars et en euros, et de tenter de racheter la totalité du capital privé des États-Unis et de l'Europe de l'Ouest. Le problème est que cela poserait de sérieux problèmes de gouvernance. Les banques centrales et leurs conseils d'administration ne sont pas mieux outillés pour administrer la totalité des propriétés d'un pays que ne l'était le système de planification centralisée en Union soviétique. Le néo-propriétarisme et le nouveau régime monétaire. Sans aller jusque-là, il est tout à fait possible que le bilan des banques centrales continue de croître à l'avenir, en particulier en cas de nouvelle crise financière. Il faut notamment insister sur le fait que la financiarisation de l'économie a atteint des proportions phénoménales au cours des dernières décennies. En particulier, l'ampleur des détentions financières croisées entre entreprises et entre pays a progressé à des rythmes sensiblement plus rapides que la taille de l'économie réelle et du capital net. En zone euro, la totalité des actifs et passifs financiers détenus par les différents acteurs institutionnels, entreprises financières et non financières, ménages et gouvernements, a dépassé 1100% du PIB en 2018, contre à peine 300% dans les années 1970-1980. Autrement dit, même si le bilan de la BCE atteint maintenant 40% du PIB de la zone euro, cela ne représente finalement que moins de 4% des actifs financiers en circulation. D'une certaine façon, les banques centrales n'ont fait que s'adapter à la financiarisation rampante, et la hausse de la taille de leur bilan leur a simplement permis de préserver une certaine capacité d'action sur les prix des actifs financiers, devenus eux-mêmes tentaculaires. Si les circonstances l'exigent, la BCE et la Fed pourraient être amenées à aller encore plus loin. On remarquera d'ailleurs que la Banque du Japon et la Banque nationale suisse viennent de dépasser fin 2018 les 100% du PIB en taille de bilan, voire graphique 13.14. Dans les deux cas, cela découle des particularités de la situation financière du pays. Au Japon, la dette publique dépasse 200% du PIB, mais fait l'objet de détentions croisées avec plusieurs entités publiques, en particulier des caisses de retraite et la Banque centrale. En Suisse, la Banque centrale a choisi de faire face à l'énorme demande internationale de francs suisses comme actifs de réserve, sans rapport avec la taille réelle de l'économie suisse, par une importante création monétaire afin d'éviter une appréciation excessive du taux de change. On ne peut toutefois pas exclure la possibilité que des évolutions similaires se produisent un jour en zone euro ou aux États-Unis. La mondialisation financière a pris de telles proportions qu'elle peut conduire de proche en proche à mener des politiques monétaires proprement impensables peu de temps auparavant. Ces évolutions posent toutefois de multiples problèmes. Tout d'abord, la réelle priorité serait sans doute de faire diminuer la taille des bilans privés, plutôt que de se livrer à une course-poursuite avec eux. Une situation où tous les acteurs sont de plus en plus endettés les uns vis-à-vis des autres et où la taille totale de la sphère financière, actifs et passifs financiers réunis, croît structurellement plus vite que l'économie réelle n'est pas tenable éternellement et met l'ensemble de l'économie et de la société dans un état de grande fragilité. Ensuite, les effets réels à long terme de ces politiques monétaires non conventionnelles sont mal connus, et il est fort possible qu'elle contribue à un accroissement de l'inégalité des rendements financiers et de la concentration des patrimoines. Lorsque les bilans des banques centrales avaient atteint des sommets comparables au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, entre 40% et 90% du PIB suivant les pays, cette forte création monétaire s'était accompagnée d'une inflation importante. Les économies étaient alors prises dans des spirales prix-salaires auxquelles les gouvernements concouraient en augmentant les salaires publics, et ce processus inflationniste contribua à réduire à peu de choses la valeur des dettes publiques, ce qui eut au moins le mérite de faciliter les investissements et la reconstruction au cours des décennies de l'après-guerre. Rien de tel dans la période actuelle. Les salaires sont quasiment gelés dans le secteur public comme dans le secteur privé, et l'inflation sur les prix à la consommation a été extrêmement faible depuis la crise de 2008, notamment en zone euro, à peine 1% par an, où elle serait sans doute devenue négative sans les interventions monétaires. Si la création monétaire ne nourrit pas d'augmentation des prix à la consommation, elle contribue en revanche à la hausse du prix de certains actifs, créant ainsi de forts différentiels de rendement. Sur les dettes publiques de l'Allemagne et de la France, les rendements nominaux actuels sont certes presque nuls et les rendements réels sont négatifs. Cela s'explique à la fois par les importants rachats de dettes publiques effectués par la BCE, visant à réduire les écarts de taux entre pays, et au fait que les nouvelles normes prudentielles contraignent les banques à détenir une partie importante de leur portefeuille dans les actifs les plus sûrs. Cela provient également du fait que de nombreux acteurs financiers mondiaux trouvent dans les dettes publiques occidentales l'épargne de précaution dont ils pensent avoir besoin, dans un climat général où chaque pays craint d'être la cible d'une panique financière, d'où une surabondance de réserves. D'une certaine façon, on peut dire que ces taux proches de zéro correspondent à une situation où il est impossible de s'enrichir en dormant, tout du moins avec ce type d'actifs très sûrs. ce qui marque une différence claire avec les périodes précédentes, ainsi qu'avec le propriétarisme classique du XIXe siècle, du temps de l'étalon or, où le rendement réel des dettes publiques était généralement d'au moins 3-4%, avec une baisse toutefois dans les dernières décennies d'avant 1914, traduction d'une certaine suraccumulation du capital, d'où une quête effrénée de rendements étrangers et coloniaux. Dans la situation actuelle, les taux d'intérêt de la dette publique sont proches de zéro. Mais cela ne signifie pas que les rendements sont devenus nuls pour tout le monde. En pratique, ce sont surtout les patrimoines, petits et moyens, qui se retrouvent avec cette situation de rendement quasi nul, voire négatif, répercutée par les banques, alors que des portefeuilles plus élevés et mieux informés des mouvements de certains prix d'actifs, en partie entretenus par les banques centrales et surtout par l'hypertrophie des bilans privés, parviennent toujours à faire des affaires intéressantes. Par exemple, les rendements observés sur les dotations financières les plus importantes, comme les dotations universitaires, où les rythmes de progression des plus hautes fortunes semblent peu concernés par ces rendements quasi nuls, on continue d'observer dans les deux cas des croissances de l'ordre de 6-8% par an, en partie alimentées par des produits financiers sophistiqués, inaccessibles aux portefeuilles moins importants. Enfin et surtout, cet activisme monétaire témoigne avant tout des multiples blocages auxquels font face les autres politiques publiques, aussi bien du point de vue de la régulation financière que sur le plan fiscal et budgétaire. Cela est vrai dans le cas des États-Unis, où la structure du conflit partisan et le fonctionnement défaillant du Congrès rendent de plus en plus compliqué l'adoption des lois, voire la simple adoption d'un budget, d'où les shutdowns à répétition du gouvernement fédéral. C'est encore plus évident dans le cas de l'Europe, dont les institutions fédérales sont encore plus dysfonctionnelles qu'aux États-Unis. Dans une situation où il est impossible d'adopter le moindre impôt en commun, compte tenu du droit de veto de chaque État membre, la capacité d'action budgétaire de l'Union européenne est naturellement très limitée. Le budget de l'Union européenne est adopté à l'unanimité des États par période de 7 ans, avec une confirmation par un vote majoritaire du Parlement européen. Il est alimenté principalement par des contributions des États en proportion de leur revenu national brut, RNB. Le budget de l'UE, appliqué au cours de la période 2014-2020, s'élève à tout juste 1% du PIB de l'UE par an. Par comparaison, les budgets publics gérés par les États membres atteignent environ 30-50% du PIB suivant les pays. Le budget de l'État fédéral états-unien représente quant à lui près de 20% du PIB, contre moins de 10% pour ceux des États fédérés et des autres collectivités locales. Pour résumer, l'Union européenne est un nain financier, paralysé par la règle de l'unanimité en matière fiscale et budgétaire. Dans un tel contexte, la BCE apparaît comme la seule institution fédérale puissante. Elle prend ses décisions à la majorité simple, et c'est sur cette base qu'elle a augmenté la taille de son bilan de l'équivalent de près de 30% du PIB européen entre 2008 et 2018. Autrement dit, la création monétaire de la BCE a représenté chaque année en moyenne près de 3% du PIB européen, c'est-à-dire 3 fois plus que le budget total de l'UE. Ces chiffres disent assez clairement l'importance du régime politique et institutionnel pour les dynamiques économiques et financières. Surtout, ils montrent comment l'hypertrophie monétaire est alimentée par la peur de la démocratie et de l'impôt juste. Autrement dit, faute de parvenir à se mettre d'accord sur des impôts communs, des budgets communs, une dette commune et un taux d'intérêt commun, ce qui nécessiterait une union parlementaire beaucoup plus ambitieuse que les simples accords entre chefs d'État qui tiennent lieu de gouvernance à l'Europe, on pratique une fuite en avant vers l'arme monétaire. Ce faisant, on demande à la BCE et à son conseil de gouverneur de régler des problèmes pour lesquels elle n'est pas outillée. Cette dérive est inquiétante et ne pourra durer très longtemps. Car même s'il s'agit de questions financières qui sont réputées techniques et hors de portée de l'appropriation citoyenne, les montants sont tels qu'ils ont commencé à profondément affecter les perceptions de l'économie et de la finance. Fort naturellement, de nombreux citoyens se demandent pourquoi de telles sommes ont été créées pour venir en aide aux institutions financières, avec des effets peu probants sur le redémarrage de l'économie européenne, et pourquoi il serait impossible de mobiliser des ressources similaires pour venir en aide aux catégories populaires, développer les infrastructures publiques ou encore financer un plan massif d'investissement dans la transition énergétique. De fait, cela n'aurait rien d'absurde que la puissance publique européenne utilise les bas taux d'intérêt actuels pour emprunter et financer des investissements utiles. À deux conditions toutefois. D'une part, cela doit se faire dans le cadre d'une architecture démocratique, parlementaire et contradictoire, et non d'un conseil de gouverneurs délibérant à huis clos. D'autre part, il serait dangereux d'accréditer l'idée selon laquelle tout peut être réglé par la création monétaire et l'endettement. L'instrument principal permettant à une collectivité de mobiliser des ressources en vue d'un projet politique commun reste et demeure l'impôt, collectivement débattu et établi, prélevé en fonction des richesses et de la capacité contributive de chacun, en toute transparence. En juillet 2013, les rockers britanniques de Muse donnent un concert au Stade olympique de Rome. Le titre, Animals, fait explicitement référence au fait que la quantitative easing a été inventée pour sauver les banquiers. Le chanteur évoque tous ces maîtres du monde qui spéculent sur la vie des gens ordinaires. Il dédie le morceau à tous les Fred Goodwin de la Terre, du nom du banquier jugé responsable de la faillite de la Royal Bank of Scotland en 2008, ce qui ne l'a pas empêché de partir avec un parachute doré. Arrive sur scène un horrible banquier aux traits effrayants, distribuant des billets à la foule. Le chanteur expliqua dans un entretien « We don't take stance, we express the confusion of our time ». De fait, la confusion est considérable. La fuite en avant vers la création monétaire et l'hypertrophie du secteur financier contribuent à nourrir le sentiment de désillusion face à toute possibilité d'une économie juste. Il s'agit là d'une des principales contradictions du régime néopropriétariste actuel, et il est urgent de la dépasser.